Quelques mois seulement après son procès, Monique, Olivier va de nouveau se retrouver face au juge du pôle de Nanterre. À partir de demain, elle sera entendue sur l'affaire Lydie Loger, une affaire non élucidée dans laquelle le couple fournirait pourrait bien avoir une responsabilité. À ce jour, les enquêteurs n'ont jamais réussi à élucider la disparition de cette mère de famille. C'était le 18 décembre 1993. Anne-Solène Tavernier.
À quelques jours du réveillon, Lydie Loger disparaît sans laisser de traces. Ce 18 décembre 1993 au soir, la jeune maman qui vient de faire ses courses de Noël se volatilise devant son domicile de ce petit village de l'Orne.
C'est le visage que Lydie avait quand elle a disparu. Elle est rentrée chez elle puisque ma maman l'a eu au téléphone. Et puis moi j'ai essayé de la recontacter dans la soirée. Impossible de la voir.
Les cadeaux pour son fils et le sapin de Noël seront retrouvés intacts, comme si de rien n'était.
Le lendemain, son époux va ramener son fils. Ils sont séparés, donc il ramène le fils pour la semaine. Et il va se rendre compte qu'elle n'est pas là, donc il ne va pas pouvoir déposer l'enfant. Et donc il va repartir avec l'enfant, avertir la famille, avertir la sœur.
La piste de la disparition volontaire ne colle pas. La jeune femme de 29 ans n'aurait jamais laissé derrière elle son fils âgé de 7 ans. Son époux est un temps suspecté, leur relation est conflictuelle, mais il a un alibi solide. Sans corps, sans indice et sans piste, les enquêteurs piétinent. Il faut attendre 23 ans avant que l'affaire rebondisse. Et si Lydie Loger était la 12e victime de Michel Fourniret ? Son ADN est retrouvé en 2016 dans la camionnette du tueur en série. 4 ans plus tard, l'ogre des Ardennes est mis en examen. Lui qui a laissé entendre que son ex-femme était présente lors du meurtre. Monique Olivier pourrait bien être la seule personne encore capable de dire où se trouve le corps de la jeune femme.
Et invité d'affaires suivantes, Plana Radenovic. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Plana, journaliste police-justice à RTL. À vos côtés, Francis Narbar, bonjour. On est ravis de vous accueillir, ancien procureur de la République de Charleville-Mézières, auteur du livre « Ma rencontre avec le mal » aux éditions Mareuil. On a beaucoup parlé avec vous, échangé sur le couple Fourniret, évidemment, au moment du procès de Monique Olivier. Elle va se retrouver demain, 10h, devant les juges, une nouvelle fois pour cette affaire Lydie Loger. Essayons de redresser le portrait de cette affaire Lydie Loger. D'abord, c'est terrible parce qu'on est le 18 décembre 1993, on est à quelques jours de Noël, elle est maman d'un petit garçon de 7 ans, c'est ça, elle est partie faire ses courses. Enfin, c'est l'ambiance de Noël qui vire au drame.
Oui, bah, c'est vraiment horrible parce qu'on est c'est un samedi, elle a fait des courses avec une copine, elle revient avec un sapin, donc on voit bien qu'on est à l'ambiance de Noël. Le lendemain, elle doit retrouver son fils qu'elle a en garde alternée parce qu'elle est divorcée depuis peu. Et voilà, elle se volatilise littéralement. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle rentre chez elle vers 18h, elle passe des coups de fil. Oui. Et voilà, on ne sait rien du tout. Enfin, c'est vraiment le mystère absolu sur la suite.
Ça, pour l'enquêteur que vous êtes, c'est quand même terrible parce qu'on a, on a vraiment l'emploi du temps. Hein, le coup de téléphone de sa mère et de sa tante à 19h, et puis à partir de 21h30, plus rien.
Oui. Alors, Lydie Loger, j'en parle dans mon livre « Ma rencontre avec le mal », j'en parle à l'occasion justement de cette fameuse période blanche que certains ont appelée période blanche et qui est tout sauf une période blanche, puisque moi j'ai dénombré 17 faits, soit des meurtres commis effectivement, soit des tentatives d'enlèvement, soit des projets qui n'ont pas abouti. Et parmi ces 17, il y a effectivement l'enlèvement, le meurtre de Lydie Loger, que j'imputais à Fourniret, mais je ne connais pas rien du dossier parce que je n'étais pas juridiquement compétent pour en traiter, donc j'ai jamais lu aucun procès-verbal de ce dossier. Simplement, j'en parle parce que effectivement, il y a après 2 instructions clôturées par des non-lieux, 4 années pour l'une, 5 ans pour l'autre, finalement, c'est réouvert en 2018 avec la découverte d'un ADN mitochondrial sur un matelas appartenant à Fourniret, découvert à Ville-sur-Lume, à l'occasion donc de la procédure, matelas qui avait été saisi à l'occasion de la procédure de 2008. Et cet ADN mitochondrial, donc transmis par la mère, il a un pouvoir moins discriminant qu'un ADN nucléaire, mais néanmoins, c'est tout de même un élément extrêmement important, d'autant plus qu'il y a également les aveux de Fourniret à la Fourniret.
On trouve effectivement donc sur ce matelas, dans la fameuse camionnette, un ADN qui va matcher avec celui de Lydie Loger. On va interroger Michel Fourniret, qui va dire, en gros, qui d'autre que moi pourrait l'avoir tué ?
C'est ça.
Il a encore une formule alambiquée, comme il sait le faire, et il mime un geste d'étranglement.
Oui.
Et avant d'en arriver là... Peut-être juste pour dire un mot, parce qu'il faut penser aux sœurs de Lydie Loger, il faut penser à toute sa famille. Elles se sont battues, mais de façon incroyable. Elles ont placardé des affiches dans Alençon. Elles se sont battues pendant des années. Il y a eu un combat incroyable de la famille.
Oui, en fait, comme souvent dans ces cold cases, ça démarre très mal l'enquête et la famille prend les choses en main. Là, les sœurs, elles se sont données vraiment à fond. Elles se sont vues répondre des choses telles que votre sœur était volage, elle est peut-être allée voir un amant. Enfin, en gros, on ne les a pas prises au sérieux. Et en fait, là, pendant 30 ans, elles espèrent des réponses. Elles ont encore lancé un appel à témoins sur RTL en juin dernier. Donc, enfin, lancer un appel à témoins après 30 ans, enfin, c'est vraiment qu'elles n'ont rien du tout. Donc, il faut voir ces dames qui ont maintenant une cinquantaine d'années et c'est le sens de leur vie, quoi.
Et c'est aussi parce qu'elles doutent de l'hypothèse fournirait. Elles ne veulent pas la prendre pour argent comptant.
Non, mais c'est parce qu'elles ont raison, parce qu'en fait, pour l'instant, alors c'est vrai qu'il y a cet ADN et ces aveux partiels, mais là, à date, comme dit l'avocat de Monique Olivier, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas, en fait. Monique Olivier nie, pour l'instant. Donc à voir.
Et même si en cause par Fourniret comme étant présente sur les lieux, dans le département de l'Orne, il y avait plusieurs raisons pour qu'ils connaissent ce département et qu'ils y circulent, d'une part. D'autre part, il y a quand même un élément qui me semble important, c'est qu'ils sont tous les deux mis en examen. Lui pour arrestation ou séquestration suivie de mort, et elle pour complicité. Pour être mis en examen, il faut quand même des éléments, des indices suffisamment graves, précis et concordants.
Qu'est-ce qui ferait que demain, elle se mettrait à parler ?
Si vous me posez la question, renvoyer ma réponse que j'ai faite à une de vos questions également sur Estelle Mouzin. Mm-hmm. Je ne crois pas, je suis malheureusement convaincu qu'elle ne parlera pas. Elle ne parlera pas, comme je l'avais dit pour Estelle Mouzin, et malheureusement, j'ai eu raison, je dis bien malheureusement bien pour les familles des victimes, bien évidemment, elle ne parlera pas plus qu'aujourd'hui, elle a été condamnée une seconde fois à perpétuité, et j'imagine qu'elle doit se dire, mais qu'est-ce que j'ai à y gagner? Vous voyez, c'est toute son inhumanité, c'est tout le mépris dans lequel elle peut tenir les victimes, qu'est-ce qu'elle a à y gagner? Elle n'a plus rien à perdre.
Elle a à y perdre un nouveau procès aux assises.
Oui, et puis, elle peut au moins une fois dans sa vie faire le bien et aider ses deux sœurs, la famille de Lydie Loger, à pouvoir donner enfin une sépulture normale à leur sœur. Au moins, elle pourrait faire ça une fois dans sa vie. Elle sait qu'elle va terminer ses jours en prison. Mais j'espère encore une fois me tromper, mais je suis persuadé qu'elle ne dira rien.
Qu'elle
contestera tout. Parce que c'est son mépris, c'est voilà. Qu'est-ce que j'ai à y gagner ? C'est terrible comme phrase.
Ouais. Est-ce qu'il y a Plana dans la disparition, dire le meurtre, même si on n'a pas la trace du meurtre, d'autres hypothèses ?
Il y a eu au début l'hypothèse du mari, parce qu'il y avait des violences conjugales suspectées, enfin du mari, de l'ex-mari, puisqu'il venait de se séparer. On sait qu'il lui parlait mal, enfin que ça se passait très mal, mais ça a été très vite écarté parce qu'il avait un alibi en or. Et en fait, non, il n'y en a pas. Enfin, c'est ça aussi le truc, c'est que là, c'est aussi d'un côté un immense espoir de connaître la vérité, parce qu'il n'y avait rien, qu'on nageait complètement, qu'on fait un appel à témoins comme ça 30 ans après. Donc non, il n'y avait rien. Je me permets juste de rebondir parce que j'ai eu maître Corinne Herman pour préparer l'émission. Alors elle y croit. Bon voilà, après chacun. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est que Monique Olivier a toujours en fait aidé la justice, et beaucoup d'avancées quand même sont liées à des aveux qu'elle a fait. Et en fait, Corinne Herman, pendant le procès de Monique Olivier, a voulu un peu la préparer à cet interrogatoire qu'elle avait déjà en tête, maître Herman, en disant. Madame, on vous croit, en parlant à Monique Olivier. Ce que vous dites, la justice ne l'écarte pas, la justice va le prendre pour argent comptant, on pense que vous pouvez les aider. Donc elle y croit. Alors, voilà.
Je vous laisse répondre, mais juste, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est intéressant de voir comment une avocate, lors d'un procès, pense à la suite et se dit, je pense à Lydie Loger et j'essaye de semer des graines pour qu'au moment où l'audition de Monique Olivier arrivera, donc en l'occurrence demain à 10h, il y a peut-être des choses qui germaient dans sa tête.
Oui, parce qu'en fait, là, le but de Corinne Herman, c'est qu'on retrouve le corps de Lydie Loger, de Corinne Herman, pour ses clientes, évidemment.
Bien sûr.
Voilà. Mais en fait, pour que Monique Olivier donne des indications sur le corps, il faut la mettre dans un certain bain. Enfin, évidemment que vous connaissez mieux que moi. Là, moi, je parle parce que j'ai eu Corinne Herman.
Bien sûr.
Évidemment, moi, j'ai jamais interrogé Monique Olivier comme vous. Mais en tout cas, il faut la mettre dans une certaine confiance. Parce qu'elle fait du on-off pendant les interrogatoires. C'est-à-dire dire que des fois, elle est à l'aise, elle parle, etc. Et dès qu'elle est mise en difficulté, elle se ferme complètement. Et là, c'est foutu, en fait. On peut plus rien avoir. Et en fait, il faut vraiment avoir cette localisation du corps 30 ans après pour les sœurs.
Francis Nagbar, comment on fait quand on est en face de soi? On est magistrat, on est quelqu'un comme Monique Olivier. Est-ce qu'on se met en mode sympa? Est-ce qu'on oublie qui on est? Comment faites-vous pour demander à Monique Olivier, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de tact, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous dire comment arrivez-vous à faire ça? Je vous admire.
Alors, avec Monique Olivier, je suis pas le seul à le dire, hein, tous les enquêteurs le disent, c'est affreux un interrogatoire. C'est 10-11 heures d'interrogatoire pour 3-4 pages de procès-verbal. Il y a des silences épouvantables, avec des grognements, des cris plaintifs, comme je l'avais déjà dit, avec ses cheveux qui tombent sur la tête pendant 10 minutes, un quart d'heure, où elle dit rien, des petits cris un peu gutturaux, des petits gémissements, elle dit rien, ni oui ni non. Elle secoue la tête comme ça, ou de haut en bas, mais elle ne dit rien. Donc c'est extrêmement pénible. On ne peut pas sympathiser avec Monique Olivier. Et là où j'ai mis un petit bémol avec Maître Herman, je comprends bien l'efficacité que veut avoir Maître Herman et peut-être son habileté dans la conduite de cet interrogatoire et surtout des discussions informelles qu'elle peut avoir avec Monique Olivier. Mais là où j'ai mis un bémol, c'est je ne pense pas que les avancées, je parle jusqu'en 2008, hein, je ne parle pas après parce que j'ai pas eu à m'en occuper. Je ne pense pas que les avancées les plus significatives dans le dossier fournirait Olivier aient été dues à l'actif de Monique Olivier. Chaque fois qu'on a progressé, qu'on a retrouvé des corps, c'est uniquement Michel Fourniret. Uniquement parce qu'on pouvait avoir des conversations avec lui. On pouvait le flatter de manière un peu intelligente. On pouvait avoir des indices. Il mettait des pièges. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Il mettait des pièges. Mais à chaque fois, c'était grâce à lui. Elle ne nous a jamais aidés en rien. En rien. J'allais dire bien au contraire.
Est-ce que c'est là où
peut-être j'ai mis une petite réserve sur
avait ce que vous dites. Le profil des proies recherchées par Michel Fourniret. C'est pas forcément ce qu'on se dit, naturellement.
Non, alors ça aussi, c'est intéressant parce que, en fait, donc, c'est une maman, elle a 29 ans, elle a un enfant de 7 ans, donc c'est pas une jeune fille vierge comme ce qu'on imagine. Mais justement, et ça, Corinne Herman le dit souvent, en fait, dans le tableau de chasse de Fourniret, si on peut se permettre de parler comme ça, il y a une vingtaine de jeunes femmes qui ont plus de 20 ans et qui sont pas en fait des petites adolescentes ou des petites jeunes filles comme Estelle Mouzin. Donc en fait, comme l'a dit Daniel Zaguri dans le psychiatre dans son expertise, c'est un tueur multicarte, c'est-à-dire qu'en fait, il a parfois envie de tuer et il a des pulsions et etc. Mais ce n'est pas que avec les jeunes femmes vierges. Donc oui, elle pourrait aussi correspondre en effet.
D'autant plus que durant cette période, en quelques années, il a agressé Joël, la toiletteuse pour chien. Elle est même plus âgée, elle avait 35 ans. D'accord. Il a agressé la conductrice d'une Ford Fiesta bleue. Il avait un projet d'enlèvement d'une infirmière en Belgique qui était à peu près du même âge que Lydie Loger. Il a été condamné pour l'agression de 3 jeunes femmes dans les années 89-90 qui ont également le même âge. Donc, il y a effectivement, c'est un multicarte, comme vous l'avez dit tout à fait justement. C'est un multicarte. Il a des aveux qui sont quand même des aveux à la Fourniret. Enfin, moi, côtoyé de très près. Quand il dit son visage ne m'est pas inconnu, je reconnais bien là ses traits. Si son ADN a été relevé, c'est qu'elle a croisé le chemin Fourniret. Ce sont ses expressions. Ouais. Et puis l'ADN mitochondrial.
Bien sûr.
C'est pas un ADN nucléaire, mais c'est quand même un ADN mitochondrial.
Et on verra.
C'est comme ça qu'on a identifié le crâne de Louis XVII avec un ADN mitochondrial pour l'anecdote. Donc c'est quand même, ça a pas la même force probante, discriminante qu'un nucléaire, mais c'est quand même corroboré par des aveux Fourniret, ça me paraît quand même du solide.
Audition de Monique Olivier demain 10h par la juge Kéris. On pense évidemment aux sœurs Loger qui se battent et qui espèrent savoir la vérité. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau d'Affaires Suivantes.